belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
Bonjour. La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de la partager avec un homme que vous entendez chaque mois sur nos ondes. Essayiste, journaliste économique, éditorialiste, c'est comme éditeur qu'il intervient. Bonjour Pierre Jovanovic.
Bonjour, c'est très très gentil de m'accueillir dans vos studios. C'est une première pour
moi. C'est un plaisir.
Oui,
c'est un plaisir.
Très très gentil.
Alors, est-ce qu'on dit Vic ou Vitch?
Vic.
Vic, allez. Comme la mission s'appelle Une belle rencontre, Pierre, c'est quoi pour vous une belle rencontre?
Une belle rencontre, alors je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi une belle rencontre c'est avant tout une rencontre littéraire. De mon enfance, si vous voulez, ma plus belle rencontre, c'était par exemple Émile Zola. C'est à l'âge de 10 ans, j'ai lu Au bonheur des dames, qui littéralement m'avait enflammé l'esprit. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais cessé de lire, alors que mes petits copains étaient encore à la bibliothèque verte, les 5 compagnons, ou les 7 compagnons, je ne sais plus quoi.
Des 7, le camp des 5.
Voilà, c'est ça. Et donc, Émile Zola, pour moi, était le... et ensuite, Gabriel Garcia Marquez. Voilà, c'est l'avantage avec les livres, si vous voulez, les rencontres avec les auteurs, c'est que vous ne vous fâchez jamais avec eux. Alors que dans la vie, on finit toujours par avoir des discordances ou on finit par se fâcher avec des amis avec lesquels on était amis pendant des années, des 10 ans. Vous voyez, ben, je ne me suis jamais fâché avec Gabriel Garcia Marquez ou avec, par exemple, Mika Waltari.
Ils vous ont jamais déçu.
Jamais. Jamais, parce que les livres ne vous déçoivent jamais, techniquement, quand vous les aimez. Quand c'est une belle rencontre, c'est une rencontre... personne n'est capable de vous faire voyager autant qu'un livre. Personne. Même un agent de voyage...
très expérimenté, non.
voilà, même un agent de voyage très expérimenté. Vous savez, le plus grand voyageur de tous les temps, celui qui a fait voyager des millions... des centaines de millions de personnes.
Je sens qu'il vous allez
parler. Dans le monde, c'est un auteur américain qui a jamais mis les pieds en Afrique, qui s'appelle Edgar Rice Burroughs et qui a écrit toute la série des Tarzan. Vous voyez, il avait jamais mis les pieds en Afrique, il se documentait dans les bibliothèques et pourtant quand il voyageait, par exemple la première fois, il avait pris le bateau pour se rendre à Londres, où il était attendu comme un grand écrivain, hein, un peu comme Charlie Chaplin. Eh bien, il y avait une foule de 50 000 personnes qui l'attendaient. Oui. Et donc, c'était une des plus belles rencontres, par exemple, pour les gens de cette époque où il n'y avait pas de radio, où il n'y avait pas Internet forcément, ni de télévision, où le seul média, c'était la presse. Et donc, et à l'époque, c'est ce qui a fait le succès de Balzac, même de Zola. C'est-à-dire que leur roman était sérialisé.
Le feuilletonnage, oui.
Voilà, c'était le feuilletonnage. C'est le même principe que Tintin.
Bien sûr.
Par exemple, pour beaucoup d'enfants, la plus belle rencontre, c'est Tintin. Mm-hmm. Oui, ou Black et Mortimer. Mm-hmm. C'est des rencontres, si vous voulez, ou Gottlieb, la rubrique à braque. Oui, ce sont des rencontres qui, fondamentalement, font évoluer l'esprit. Peu importe l'âge auquel on
l'aborde,
on le découvre. Voilà. Donc les plus belles rencontres, pour moi, forcément, c'est des livres. Alors après, c'est les femmes, bien sûr. Et pour les femmes, forcément, c'est des hommes. Ou par les temps qui courent, donc c'est des femmes, hommes, enfin, tout est possible aujourd'hui. Donc c'est tout voilà.
Mais je trouve ça chouette. Vous êtes le premier, depuis que je fais cette émission, qui me parle. Voilà, une belle rencontre, c'est pas forcément... bien sûr, une rencontre inattendue, mais c'est aussi... Elle peut venir aussi d'un livre, et c'est vrai. C'est vrai.
Non, par exemple, l'un de mes plus grands éblouissements littéraires, c'est Waltari et Gabriel Garcia Marquez, par exemple, Cent ans de solitude. Mm-hmm. Cent ans de solitude, si vous voulez, c'est un livre qui vous emporte. C'est tout à fait étonnant parce qu'il l'avait écrit quand il avait 19 ans ou 20 ans, je crois. Et même aujourd'hui, Cent ans de solitude se vend à des millions d'exemplaires parce que le seul média qui fonctionne dans la littérature, c'est le bouche à oreille. Mmh. Voilà. C'est le bouche à oreille, il n'y a pas photo, c'est celui qui fonctionne le mieux. Tant et si bien que moi-même, par exemple, je fête, on est là tous les deux aujourd'hui, je fête les 30 ans de la publication de Enquête sur l'existence des anges gardiens. Oui, c'est pas moi qui fais le succès de ce livre, même si c'est moi qui l'écris. Mais après, si vous voulez, une fois qu'on a, entre guillemets, accouché du livre, parce que c'est un accouchement.
Bien sûr. Hein,
c'est l'accouchement. Aujourd'hui, vous avez tout un mouvement woke qui veut nous faire croire que les hommes peuvent accoucher, hein, que les hommes peuvent faire des enfants, etc. Enfin bon, bref, je parle de ça parce que j'ai vu des extraits du film Barbie, donc c'est surréaliste. Voilà, mais tout est possible. Mais ce sont, avant toute chose, si vous voulez, c'est le public qui fait le succès d'un livre. C'est ni la critique littéraire, ni Le Monde ou Le Figaro ou le New York Times. Le New York Times a fait des éloges phénoménaux de livres qui ont été des bides retentissants.
Bien sûr.
Vous me suivez ?
Très bien.
Donc c'est le public dans sa sagesse populaire et magnifiée qui je pense souvent, si vous voulez, à l'exemple. Alors je sais plus comment s'appelle cette expérience, mais c'est l'expérience. Il y avait une foire, un peu que vous savez, comme la foire agricole à Paris. Et ça s'est passé aux États-Unis dans les années, à la fin du 19e siècle, 1870, quelque chose. Et donc, il y avait peut-être beaucoup de monde, c'est 6, 7 000 personnes. Et il y avait une vache à gagner. Voilà, c'est un truc où il n'y a que des fermiers, etc. Et il y avait une vache à gagner. Et alors pour la gagner, il fallait deviner son poids exact. D'accord ? Et donc, tout le monde mettait son petit bulletin avec son adresse, son nom, et le poids qu'il pensait estimer selon chaque personne. Et les organisateurs donc, se sont rendus compte, en calculant, en étudiant les réponses, qu'en fait, la moyenne exacte de toutes les réponses donnait le poids précis de la vache en question.
C'est dingue, ça.
Oui,
c'est dingue.
C'est une intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence
collective.
Globale,
ouais.
L'intelligence collective. Nous, on a au Jardin des Livres, on a un très bon livre là-dessus qu'on a publié il y a une quinzaine d'années. C'est le principe de l'intelligence globale, le principe de Lucifer, tome 2 de Robert Bloom.
On va en parler. Je propose de commencer par un portrait de vous pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes né en 60 à Belgrade, en Yougoslavie. Vous êtes, je l'ai dit en début d'émission.
Je suis né en 60, oui. C'est l'époque des porte-jartel et des banylons.
Ouais.
Oui, c'est quelque chose qui m'a prodigieusement marqué, oui, toute ma génération.
Je suis vraiment de la même génération.
Donc, c'est une bonne nouvelle.
Je l'ai dit en début d'émission, vous êtes essayiste, journaliste économique, éditeur, éditorialiste, et vous êtes aussi l'auteur d'essais historiques, théologiques, financiers et politiques. Et moi, je vous ai rencontré par votre maison d'édition, Jardin des Livres. En deux mots, votre maison d'édition a été créée quand, Pierre ?
Oh, ça a été créé il y a 20 ans.
Il y a 20 ans.
En 2001, très peu de temps avant le 11 septembre.
Et pourquoi avoir décidé justement de vous lancer dans cette aventure éditoriale qui est difficile ? Déjà pour vos livres au début et puis après d'autres ou non ?
Si, parce que à cause de mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui était un best-seller retentissant.
500 000 exemplaires,
savoir,
je crois. Hein.
Oui, il faut beaucoup plus. Mais à l'époque, il faut savoir, si vous voulez, que les 10 plus grandes maisons d'édition m'avaient refusé. Donc, je m'étais rendu compte, si vous voulez, là, pour le coup, en tant que journaliste et grand reporter, de tomber sur des éditeurs qui n'avaient jamais rien écrit de leur vie, qui ne seraient même pas capables d'écrire une brève dans la Dépêche du Midi, qui vous explique comment il faut écrire sur tel et tel sujet. Je me suis rendu compte, si vous voulez, de l'aberration totale qui était le dénominateur commun, on va dire, de l'édition française de l'époque.
Cette liberté depuis 20 ans, c'est important pour vous ? Pour dire ce que vous avez à dire ?
Ah oui ! Bien sûr que c'est important. Par exemple, Valtari. Moi, je me bats pour Valtari parce que je considère comme l'un des plus grands écrivains au monde avec Gabriel Garcia Marquez. Bien sûr, il y en a d'autres. Là, je vous parle, mais c'est communément accepté. Si vous voulez, Valtari, par exemple, c'est le Victor Hugo. Vous allez en Finlande, vous avez des rues, des boulevards, Mika Valtari. C'est le Victor Hugo. Alors que vous allez en Amérique, vous allez voir des Américains, vous leur parlez Victor, vous leur dites Victor Hugo. Oui, oui, qui c'est. Vous voyez ce que je veux dire.
Ou alors par Notre-Dame de Paris, à l'intérieur. Par le cinéma.
Non, mais vous savez que Walt Disney, c'est bande d'enfoirés. Quand ils ont fait le dessin animé, ils n'ont même pas mis selon, d'après l'œuvre de Victor Hugo. Ils se sont attribués la chose. Vous voyez, les Américains sont des voleurs dans leur grande spécialité. Hein.
Entre autres métiers, parce que ce sont des métiers, vous êtes toujours journaliste économique, Pierre ?
Ah oui, oui, tout à fait. Bah, je dirige la revue de presse internationale. Vous
c'était une passion c'est pour l'économie ? Vous avez fait des études d'ailleurs avant de devenir journaliste en économie ou c'était vous avez fait journaliste vers l'économie ou vous étiez économiste et qui vous amenait vers le journaliste.
Alors non, mais c'est autre chose.
C'est quoi,
ma spécialité. Alors, mon chemin, c'était l'informatique.
D'accord.
C'est l'informatique au moment de la révolution informatique 1981, 82, 83. Et donc j'ai commencé au Matin de Paris, donc le quotidien. Et
avec Philippe Tesson.
Non, Claude Perdriel.
Ah, c'était Perdriel, d'accord.
Il y avait Ruth Elkrief à l'époque, qui était jeune journaliste, qui était là. Christine Bravo, qui était jeune journaliste, moi-même. Voilà. On avait quoi, 20 ans, 22 ans, 23 ans.
Il n'y avait pas Jean-François Kahn dans l'aventure ?
Si, Jean-François, Jean-François Kahn venait effectivement de temps à autre avec.
Mais j'étais lectrice à cette époque-là.
Voilà, Richard Licia.
C'était un ton très différent. Le lancement du Matin de Paris, c'était un ton journalistique très.
Vous parlez du Moyen-Âge, là. On a changé d'époque.
Nous sommes deux Moyen-Âgeux.
Oui, mais notre avantage, si vous voulez, c'est d'avoir un spectre. Vous voyez ce que je veux dire ? Grâce à notre expérience, alors que les jeunes générations ne sont même pas capables de. Quand on leur dit, mais vous savez, on pouvait fumer dans un avion. Moi, je faisais des Paris New York, tout le monde fumait comme des pompiers. Les gens me regardent en disant, mais ils racontent n'importe quoi.
Je vois bien, oui.
C'est ça qui est extraordinaire.
Du coup, je vous ai interrompu sur le Matin de Paris, parce qu'après, on vous retrouve aussi au
quotidien
de Paris.
Oui, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai commencé donc avec l'informatique. À l'époque, personne ne savait... je veux dire, moi, je correspondais avec des gens comme Bill Gates, comme Steve Jobs, mais personne ne les connaissait. Voilà. Et progressivement, si vous voulez, j'étais amené à publier des articles dans le Matin et surtout dans le et après dans le quotidien. Voilà. Et de par mes articles de sur l'informatique, j'étais amené à fréquenter énormément de banquiers. Et pas n'importe lequel, parce que là, c'était le PDG, le numéro 2, le numéro 3, enfin, le directeur informatique. Et qu'est-ce qui fait, si vous voulez, la puissance d'une banque aujourd'hui ? C'est sa puissance de calcul informatique.
Mm-hmm.
Une banque, c'est quoi ? C'est que des additions. Dans l'absolu, si vous voulez, c'est une suite d'additions ou de soustractions, ou de taux d'intérêt. Donc, c'est, quand vous lisez, par exemple, Balzac ou l'argent d'Émile Zola, il décrit une banque
un système boursier,
où vous avez... Non, mais simplement une banque, où vous avez genre 70, 80, 200 aides-comptables. Aides-comptables, comme leur nom, ils aident à compter. C'était ça, parce qu'il fallait donner à chaque client qu'est-ce qui lui restait sur son compte. Oui, les soustractions et les additions se faisaient à la main. Oui.
Bien sûr, oui, ça a tout révolutionné. Et c'est vrai que moi, je me rappelle très bien, dans les années 80, quand on voit Le Loup de Wall Street, par exemple, le film de Scorsese, moi, je me rappelle que les années 80, et musicalement, et culturellement, c'était l'arrivée des premiers traders qui s'en mettaient plein les narines. Enfin, il y a eu toute une bascule culturelle qui est passée des babacools aux jeunes...
Greed is good.
Voilà.
L'avidité, c'est bien. La greed is good. Ouais. La radinerie, c'est bien.
C'est ça. C'est l'idée. C'est vraiment les années 80.
C'est les années 80 et surtout 90.
Ouais.
C'est surtout les années 90. Voilà. Et c'est comme ça que, j'ai été amené à fréquenter les banquiers au plus haut niveau, que ce soit au Crédit Agricole, à BNP, Société Générale. Et parce que les PDG des banques étaient très fiers d'expliquer à la presse spécialisée, qu'ils avaient acheté le dernier IBM, qu'ils avaient mis 50 millions dans le dernier bulle, au contrôle data, enfin des grosses bécanes. Ils étaient fiers comme Artaban. Non, mais c'était une époque, on a du mal à réaliser. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme les crypto-monnaies. Il y a 5-6 ans. Une période de flottement où tout le monde voit qu'il se passe quelque chose, mais on n'arrive pas trop bien à saisir. Et ceux qui sont dedans vraiment connaissent tous les acteurs. Donc je connaissais tous les acteurs, que ce soit dans l'informatique, dans la fabrication des logiciels, les premiers tableurs, vous voyez, les ancêtres d'Excel ou des.
Tout ça, vous l'avez vu naître.
Ah mais je l'ai vu naître, j'ai vu grandir, tous les acteurs, j'ai interviewé, etc. Je les ai fréquentés, j'ai fait des fêtes avec eux. Enfin,
c'est passionnant, il faudrait que vous écriviez un livre là-dessus. En 2014, vous étiez venu ici, enfin pas ici, par téléphone. C'est Alim Bouzid qui vous avait interviewé, et vous avez interviewé à l'époque pour un livre que vous aviez écrit sur John Law. C'est vous qui l'avez, c'est un livre de vous.
Alors il y a deux choses.
Il est paru en 2014. Hein.
Alors c'est avec Adolphe Thiers. Excusez du peu, c'est le président de la République. Bon, Adolphe Thiers était passionné par l'histoire de John Law et par la naissance de la monnaie papier. Et donc, moi, j'ai fait. Avec Anne-Marie Bruyant, on a modernisé son texte, qui, à la lueur du 21e siècle, est furieusement moderne, parce qu'il raconte en fait la folie qui s'était emparée de la France avec John Law, les premiers billets de banque papier, et puis ça s'est terminé dans une débâcle absolument phénoménale. Et ce qui va se passer là, enfin ce qui est déjà en train de se passer sous notre nez, hein, techniquement.
Ce qui s'est déjà passé en 2008 aussi, vous l'abordez 2008, la crise financière.
J'avais écrit un livre, vous savez, moi en France, j'étais le seul en France à l'annoncer. On était 10 dans le monde, grosso modo. On était 10 dans le monde à l'annoncer. Moi, j'avais commencé même la revue de presse en février 2008 à cause de l'affaire Kerviel, en disant que la Société Générale se fout de nous parce qu'ils sont capables. Vous êtes à découvert de 15 euros. Ils vous appellent, ils vous insultent, lettre recommandée, etc.
Mais 50 milliards, ça les gêne
pas. Voilà, ils perdent. Il y a 8 milliards de découverts. Bon, ça, ils sont passés complètement à côté. Donc, c'était vraiment du foutage de gueule. Mais c'est là où tout a commencé, en fait. C'est là où tout a commencé. C'est là où et moi j'avais annoncé donc en mars, de toute façon les archives sont là, mars 2008, j'avais annoncé que tout le système va exploser pour une raison très simple, c'est que vous avez les 10 plus grandes banques mondiales qui sont en train de chercher à se recapitaliser. Et comme le verbe recapitaliser le révèle très bien, se recapitaliser, ça veut dire qu'il n'y a plus de capital. Hein, c'est comme le verbe regonfler. Oui, gonfler les pneus et regonfler les pneus. Regonfler les pneus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dedans. Ben, c'est la même chose pour les banques. En fait, les 10 plus grandes banques mondiales étaient en train de, dont la Société Générale, étaient en train de dire on n'a plus d'argent, on est mort, on est foutu, on a tout dilapidé.
C'est voilà, intéressant voilà. Parce que vous
introduisez. Et 6 mois plus tard, ça a explosé, hein, le 29 septembre.
Voilà. Vous abordiez avec Alim à l'époque, le journaliste. Pardon ? Ah pardon, excusez-moi, je vous ai amené un verre d'eau.
Et voilà, c'est gentil, merci.
Avec Alim, vous abordiez aussi le exactement ce que vous introduisez là, qui fait une passerelle formidable, sur les lanceurs d'alerte, qui étaient amenés à être tués, à être plus que tués. Hein, voilà, il y en a même qui sont enfermés depuis je ne sais pas combien de temps dans les ambassades. Vous vous considériez comme un lanceur d'alerte, par exemple, quand vous parliez
de ça? Non, moi je me considérais comme un journaliste. Il ne faut pas mélanger lanceur d'alerte et journaliste. Lanceur d'alerte, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est dans la banque, par exemple, qui est à la Société Générale, qui est dans le système et qui va, parce qu'il est mal payé ou parce que c'est toujours des histoires d'argent, il va se venger sur la Société Générale et dire que c'est une bande de pourris, etc., que j'ai les preuves qu'ils ont bidonné leur bilan et patati. Bah, on a eu le cas au Crédit Agricole, par exemple.
Vous les croyez nécessaires quand même, ces lanceurs d'alerte?
Moi, je les vois comme des traîtres, donc c'est différent. Soit on démissionne, vous voyez ce que je veux dire, soit on démissionne et après, effectivement, on dit à la direction, écoutez, je ne peux plus accepter votre politique qui ne correspond pas à mon ordre moral, blablabla, ok. Mais trahir de l'intérieur, c'est très délicat, c'est vraiment très délicat. La meilleure solution, si vous voulez, c'est tout balancer, mais ne jamais dire... parce que les lanceurs d'alerte, je vous rappelle, veulent de la lumière.
Oui.
Hein, ils veulent la lumière. Si vous voulez vraiment lancer une alerte, vous balancez tout, mais vous ne dites pas d'où ça vient. Vous restez totalement anonyme. Oui, ça, c'est un lanceur d'alerte. Alors que les lanceurs d'alerte tels qu'on vous en parlait, c'est des gens qui veulent la lumière.
D'accord.
Hein, qui veulent passer en radio, en télé. Oui, j'ai attiré la... Bon, c'est très bien, mais pour moi, c'est avant tout des traîtres. Un vrai lanceur d'alerte, c'est celui qui ne dit, qui balance tout, mais qui reste dans l'ombre. Voilà.
D'accord. Et on va marquer une première pause musicale.
Bah, vous savez, c'était c'est l'affaire Nixon, hein.
Oui, mais on va reparler de tout
Gorge
ça.
Gorge profonde, hein.
La deuxième partie de la mission va être un peu plus spirituelle, un peu moins financière. On marque une pause avec, j'ai pas noté le nom, mais c'est une chanson de Tears for Fears, hein, par Gary Jules, qui a retrouvé, recomposé
Tears
Mad
for
World.
Fears, je les ai vus en concert à Los Angeles.
Ouais, mais ça, c'est une reprise d'eux. À tout de suite.
Tears for Fears.
faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and what's my lesson? Look right through me, look right through me.
Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans cette belle rencontre que je vous propose aujourd'hui avec Pierre Jovanovic, que vous avez le plaisir de retrouver en chronique matinale, une fois par mois. Pierre, c'est en 2019 que Guylaine Dubois vous reçoit à nouveau. Alors là, pour parler... entre autres, d'un livre qui vient de sortir, dont vous avez fait, vous m'avez précisé, l'introduction, qui est Le scandale de Littra. Mais elle vous avait aussi interrogé sur Hitler et la vengeance de la planche à billets. Et oui. C'est vrai que j'aime beaucoup votre analyse dedans, parce que c'est très proche de la mienne. C'est qu'on a vraiment amené Hitler au pouvoir après la guerre.
Et oui, mais c'est les banques qui ont amené. Je veux dire, l'histoire a été... volée. Elle a été volée aux Français, volée aux Allemands, volée aux Anglais, bien sûr, aux Italiens. On oublie de dire que c'est comme si la Société Générale, BNP et Crédit Agricole, en France, faisaient faillite à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. Mmh. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. Mmh. Et le fait d'avoir ruiné les Allemands, mais quand je dis ruiné, c'est totalement.
On allait chercher une baguette avec une brouette de billets. Quasiment.
Exactement, voilà. Ça, l'hyperinflation, la fausse monnaie, plus la ruine des trois plus grandes banques allemandes, mm-hmm. ont fait que les Allemands ont eu assez. C'était un boulevard et ils ont amené effectivement le Parti national-socialiste à l'Assemblée.
Mais Pierre, c'est peut-être ce qui est en train de se passer en Argentine, hein, excusez-moi, mais c'est aussi ça.
C'est en train de se passer dans beaucoup de pays, il n'y a pas qu'en Argentine. Enfin bon, je me méfie de ce qui se passe en Argentine, parce que l'Argentine, vous savez, elle a fait des défauts de paiement, c'est déjà la 8e fois, je crois. Donc,
mais ce sera aussi pas la dernière. Ça a été aussi, c'est un pays riche, l'Argentine, quand même. Hein.
Totalement
que
riche.
Que les systèmes bancaires ont ruiné les uns après les autres. Quoi.
Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que comment dire, à partir du moment où vous donnez, vous permettez aux ultra-riches de piloter un pays uniquement à leur profit, alors effectivement, ça finit toujours dans une catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, l'Argentine est pieds et poings liés. Elle a une dette absolument comme la Grèce.
Voilà. Ça aussi, vous l'abordez. C'est dans lequel livre que vous abordez justement la mise à sac de la Grèce? C'est dans Littra qu'on en parle?
Non. De Littra, c'est pas moi qui l'écris. Moi, j'ai juste fait la préface. De Littra, ça touche plus l'or.
D'accord.
parce que les gens me disent, oui, si on achète de l'or, on va, est-ce qu'on peut être saisi? Je dis non, Delitra, justement, il a écrit un livre sur le sujet en disant que quand les Allemands sont arrivés en 40, la première chose qu'ils ont faite, c'est foncer à la place des Victoires, à la Banque de France. Mais c'est pas pour autant qu'entre 40 et 45, ils ont forcé les Français à rendre leur épargne, ou leur pièce d'or. C'est ça que je veux dire.
Guylaine abordait justement avec vous ce livre dont vous, qui est paru en quelle année, l'enquête sur les anges gardiens? Vous m'avez dit.
Alors, c'est sorti en septembre. C'est sorti le 28 ou le 20 septembre 1993. Donc ça a fait 30 ans.
Et voilà. Elle vous questionnait déjà, Guylaine, sur cette vision très pragmatique que vous avez du monde de l'argent et que vous dénoncez fortement. Et puis votre côté spirituel. Alors vous l'expliquez dans la première émission. Donc je le rappelle, visiblement, vous avez vu une balle. C'est ça, vous pouvez la raconter, cette histoire de la balle en Californie?
Oui, tout à fait. Je me trouvais dans une voiture, j'étais à la place passager, j'étais dans la Silicon Valley, justement. Mm-hmm. Je venais de finir une interview. On était sur l'autoroute, on remontait sur San Francisco. Lorsque, sans raison aucune, je me suis jeté comme ça sur ma gauche. Et le temps s'est arrêté, tout s'est arrêté, sauf une chose, un point que je voyais qui arrivait de loin, et je savais que c'était une balle, qu'elle arrivait vers moi et que j'avais tout le temps de l'éviter. Voilà, et j'ai vu tout ça au ralenti, donc c'était assez étrange.
Mais vous en étiez destinataire, Pierre, ou c'était une balle perdue? Vous savez pas.
Non, il y a. Alors, vous savez, aux États-Unis, ils sont tous armés. Mm-hmm. Ce genre d'incident est quasiment.
Quotidien.
Parce que vous avez tout un tas de fous furieux qui. Regardez, il y a encore une tuerie. Il n'y a pas une journée sans qu'il n'y ait pas une tuerie aux États-Unis. Hein, voilà. Vous avez des gens qui s'entraînent sur des cibles mouvantes. Mm-hmm. Voilà. Et donc, manifestement, c'était quelqu'un qui était en face et qui tirait sur notre voiture. Parce qu'il l'avait pris comme cible mouvante, hein, tout simplement. Et en l'occurrence, c'était. Et la balle, elle était pour moi. Hein. Mm-hmm. Enfin, elle se dirigeait vers moi. Le type qui a tiré, il savait même pas que j'étais là. Mmh. Ah, oui. Donc c'est ça qui est intéressant, si vous voulez. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que je me suis mis en réflexion, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut voir les choses au ralenti.
Mais vous parlez d'expérience de mort imminente. Vous avez été touché ce jour-là, ou c'est à une autre occasion que vous avez eu cette expérience de mort imminente?
Non, mais moi, j'ai pas eu de mort imminente. En revanche, ce que j'ai vécu correspond à tout ce que d'autres personnes qui ont, elles, vécu des expériences plus corsées que la mienne. Mais le dénominateur commun, c'est le temps au ralenti. Mm-hmm. Alors ça, c'est très fréquent. Moi, j'ai énormément de lecteurs, même aujourd'hui, qui m'écrivent en disant « Monsieur Jovanovic, j'ai vécu ce que vous dites, ce que vous avez décrit, le temps au ralenti. Nous avons été percutés légèrement par un camion. Notre voiture s'est mise à tourner sur l'autoroute. Le temps s'est arrêté. Je voyais tout au ralenti, etc. » Je savais que tout... Enfin, c'est très fréquent. Mm-hmm. Hein.
Vous êtes croyant, Pierre. Hein, vous le dites.
Je suis croyant, mais je n'ai pas écrit ce livre, non, si vous voulez.
C'est pas ça, c'est qu'avant, est-ce que vous aviez abordé cette idée des anges, par exemple?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas du tout mon... Vous savez, moi, j'ai été traumatisé par mon éducation catholique, justement, où on vous disait... on condamnait le sexe, hein, mais la première chose que les prêtres faisaient, c'est baptiser les bébés. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'un côté, le sexe, c'est quelque chose de sale, on doit souffrir, etc. Enfin, moi, j'ai connu ça, hein, c'est les années 60-70. Et donc, j'étais pas très, très... J'étais très éloigné, on va dire, de même si j'ai été baptisé ou j'ai fait ma première communion catholique, ça m'avait pas spécialement intéressé. Mmh. Et c'est justement cette autre approche que j'ai eue dans le... totalement éloigné, justement, de tous ces curés qui ne croient en rien, d'ailleurs, pour la grande majorité. Hein, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça que ce livre a du succès, vous le savez.
Oui.
C'est parce que les prêtres aujourd'hui, en fait, ne sont plus des prêtres pour la plupart. Hein, pour la plupart. C'est pas moi qui le dis, c'est un garçon qui s'appelle Frédéric Martel, qui est qui a fait une enquête pendant 10 ans. Il a interviewé 1500 prêtres aussi bien à Rome, à Paris, etc. Et donc, bon, il dit 80% des curés aujourd'hui du Vatican, ils sont tous homo. Et en fait, ils sont devenus prêtres parce que c'est là où il y avait plus de mots, qu'il y avait plus de partenaires possibles. Voilà, mais ça, c'est une réalité. Si vous voulez que si vous dites ça à la radio, bah, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs.
Maintenant, même l'Église le dit. Donc.
Même l'Église le dit, oui. Mais sauf que, observez, par exemple, que. Vous avez plus personne qui veut devenir prêtre, oui. Parce que le fait d'être homo aujourd'hui est parfaitement reconnu, c'est accepté et c'est normal, ce qui n'était pas le cas dans les années 50.
Mais c'est aussi quelque 60. Chose qui touche la religion catholique, parce que dans les autres religions...
Donc il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de candidats.
Non, mais par exemple, les pasteurs peuvent être mariés, les rabbins peuvent être mariés.
Ah, mais les protestants et les orthodoxes n'ont pas le problème. Ou les juifs n'ont pas le problème. Puisque le rabbin, pope ou oui, révérend...
Pasteur, chez nous, c'est les pasteurs.
Voilà, le pasteur, le pasteur sont des gens mariés, donc ils n'ont pas de scandale. Je veux dire, leur église n'est pas détruite de l'intérieur par une suite de scandales infinis.
Il est toujours publié.
Qui ça ?
L'enquête. Vous le rééditez régulièrement ?
Ah mais attendez, mais il existe en plus en deux formats. Il y a le format pour les hyper riches, c'est-à-dire 28,90€ ou 80 je crois. C'est la version 600 pages, ouais. Donc avec des photos, etc. Donc j'ai rajouté 200 pages de plus.
C'est la question que je vous pose après, Pierre.
Et vous avez la version qui est en livre de poche, qui est la première version qui est sortie, mais malheureusement il y a pas les photos dedans. Enfin, c'est une décision que j'ai lue à l'époque. Voilà.
De le simplifier.
Ouais, voilà, mais donc voilà, il y a les deux versions, et la version à 8€ et la version à 28€. Voilà.
Et un livre qui a 30 ans, que vous écrivez à un peu plus de 30 ans et que maintenant vous en avez un peu plus de 60, vous avez envie de le reprendre. Il y a des choses qui ont évolué en 30 ans, en vous-même, ou des choses que vous avez dit justement lors de la première écriture, que vous n'auriez pas envie de remettre aujourd'hui.
Alors c'est intéressant, votre question est intéressante, et je vous dis tout de suite, non, il n'y a pas une ligne, une virgule à changer. Peut-être une coquille ou deux à corriger.
Oui, non, mais c'est pas ça, c'est plus votre philosophie, votre sensibilité.
Non, il n'y a rien à changer.
Tiens, j'ai mis ça là, mais en définitive, aujourd'hui, je ne dirais plus pareil. Ça ne peut pas dire le contraire, mais dire plus
non.
pareil.
D'accord. Non, votre question est vraiment très pertinente, parce que je n'y ai jamais pensé, mais maintenant que vous me dites, non.
D'accord.
Là, franchement, sincèrement. Et justement, vous voyez, votre question en fait valide l'existence du livre. Dans le sens où c'est le public qui en fait le plus grand, la promotion. Vous me suivez ?
Vous en avez parlé, mais vous avez beaucoup de gens qui vous écrivent après.
Ah oui. Ah mais écoutez, tous les jours, je reçois des mails. Tous les jours.
J'ai reçu une dame qui s'appelle Nicole Canivin qui avait écrit un bouquin sur les êtres de lumière. Alors moi, je suis quelqu'un de très, 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 très pragmatique. Alors, j'ai un petit peu du mal à concrétiser des êtres de lumière qui vous accompagnent. Et même l'idée même d'un ange gardien, pour moi, c'est difficile, mais c'est justement très intéressant de discuter avec des gens qui vous en parlent. Vous me le ferez passer, Pierre, le livre. J'aimerais vraiment beaucoup le lire.
Les anges gardiens ?
Ah oui, vraiment, oui.
Oh, bah, je veux ça, dire, je pensais que vous l'aviez.
Non.
Je
ferai un petit mail à Marie. Mais vous avez un ange.
Vous savez, c'est pas parce que. N'oubliez pas, le protestantisme est né à la base parce que Luther, en fait, était très amoureux d'une nonne et qu'il avait demandé la libération de cette nonne au pape, qui évidemment, il est monté au plafond, quoi. Il dit, mais il est fou. Et donc, c'est de là qu'est partie la grande révolte. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous la mettez, cette révolte, elle a eu... L'histoire repasse les mêmes plats. Qu'est-ce qui s'est passé en 68 les étudiants ont manifesté parce qu'ils voulaient...
Des filles à Nanterre.
Non, mais ils voulaient aller dans le dortoir
des filles. Dans des filles, oui.
Voilà. Et donc, évidemment, le recteur avait dit, bon, non, sur des questions, etc. Oui. Puis, vous voyez, ça
c'est
a dégénéré.
C'est vrai que ça a commencé comme ça.
Mais bien sûr que ça a commencé.
Il ne faut pas faire forcément une lutte politique.
Voilà. L'histoire est faite, si vous voulez, de... vous savez, quand vous allumez une ampoule électrique, pourquoi est de la lumière ? Parce que vous avez un atome positif qui court après un atome négatif. Ou l'inverse, peu importe de quel côté. Vous avez toujours un homme qui court après une femme. C'est ce qui fait de la lumière. C'est ce qui fait les révolutions, finalement.
Oui, non, mais...
Le protestantisme, indépendamment, on ne peut pas lui donner tort. Moi le premier.
L'état de l'Église catholique à ce moment-là, c'était pas terrible quand même.
Ça n'a jamais été terrible.
Hein. Oui, non, mais là, vraiment, les papes. Voilà,
non, mais les papes ont vécu. Ouais. Les papes ont vécu ce que les rois de France ont vécu en 1700. On leur a coupé la tête. Et avec la laïcité, on a coupé la tête aux prêtres. Vous voyez, ça procède de l'invasion. Les excès, les abus. Des uns, si vous voulez, sont le germe des révolutions. Et en ce moment même, Il y a une révolution qui est en train de germer. Littéralement, parce que les classes moyennes sont totalement détruites, par un gouvernement qui est totalement corrompu, il faut le dire.
Oui, mais dans un monde corrompu.
Dans un monde corrompu.
Pierre, il nous reste 5 petites minutes et je voulais revenir justement sur celui dont vous avez parlé en début d'émission, celui qui vous tient à cœur, tellement que vous rééditez, vous retrouvez, vous prenez les droits d'édition de lui, c'est Mika Waltari. Donc, pour mémoire, Mika Waltari, donc, il est né en 1908 à Helsinki, mort en 79 dans la même ville. Donc il est finlandais. Il était fils de pasteur luthérien d'ailleurs. Voilà. Depuis 4 mois, donc vous avez la gentillesse d'offrir à nos lecteurs et à nos auditeurs plusieurs titres que vous rééditez de Mika Waltari. On a commencé, je crois, par L'Étrusque, après Jésus de Nazareth, L'Écolier de Dieu et le dernier, c'est Rome.
Bah, L'Écolier de Dieu, d'ailleurs, de mémoire, c'est la naissance du protestantisme.
Tout à fait,
hein.
Tout à fait. Oui. Et puis, on avait eu aussi L'Homme qui a battu Kasparov, La guerre des drones, et je vous dis celui que je n'ai plus, parce que vraiment là, les auditeurs se sont battus. La maladie n'est pas un hasard. Voilà,
du docteur Lamotte.
Ouais, qui a passionné nos auditeurs. Mais sur Mika Waltari, on a le temps quand même, on a encore 4 belles minutes pour en parler, Pierre. Qu'est-ce qui vous...
Mais il ne faut pas se limiter.
Transporte.
Il nous reste tellement peu de temps à vivre. Pourquoi vous vous limitez à 4 minutes?
Parce que c'est un format d'émission. Donc parlez-nous de Mika Waltari, de cette passion que vous avez pour cette...
Mika Waltari, il se destinait à la prêtrise. Il voulait devenir prêtre comme son père, évidemment, c'était son modèle. Il voulait devenir pasteur et puis bon, il s'est rendu compte qu'il aimait trop les femmes, et surtout pour en avoir qu'une seule. Donc il est devenu journaliste et écrivain et il avait un talent clair. Il a écrit Sinoué l'Égyptien.
C'est un succès dingue.
Succès mondial, toujours, même aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et en fait, il avait un talent. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il écrivait sur sa table, il y avait 2 feuilles à 4. Avec sa main gauche, il écrivait en suédois. Et avec sa main droite, il écrivait en finnois. Parce que la Finlande était un tout petit pays, donc il n'y avait qu'à l'époque, je ne sais pas, il y avait 2-3 millions d'habitants. Et donc, il voulait avoir plus de public. C'est pour ça qu'il écrivait en même temps en suédois, pour qu'il ait une chance d'être connu, entre guillemets, en tant qu'écrivain. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'il a vraiment réussi. Mais vous voyez à quel point le métier d'écrivain, je veux dire, est difficile. Vous imaginez les efforts que Mika Waltari a pu faire. Il ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, nous, vous et moi, on serait là à Montpellier en plus, en train de parler de lui, alors qu'il est mort depuis 40 ans. Quoi.
Le premier éditeur de Mika Waltari en France, c'est qui?
Alors que je crois de mémoire, il lui a pas payé ses droits d'auteur déjà. Ouais. C'est pour ça qu'on a récupéré.
Comment vous les avez récupérés? Voilà,
parce qu'ils ont payé les droits d'auteur. C'était un gros éditeur. Je me demande si c'est pas Plomb.
Oui, je crois que c'est Plomb. Hein.
Je crois que c'est Plomb.
À peu près sûr.
Ils ont pas payé et quand l'éditrice finnoise a vu que je connaissais l'œuvre de Mika Waltari par cœur, elle nous a cédé la totalité des droits. Sauf Sinoué, parce que c'était une autre maison d'édition. Mais pour moi, c'est Waltari. Vous commencez 10 lignes de Waltari, vous êtes déjà emporté. C'est un vrai cinémascope. C'est-à-dire que c'est le seul auteur qui est meilleur qu'un grand film d'Hollywood réussi.
Ça m'a fait un peu ça avec Ken Follett, moi.
Oui, c'est ça. C'est un Ken Follett historique. Oui, c'est ça, bien sûr.
Avec une
Mais vous savez, le talent d'un écrivain, c'est de saisir le lecteur dès la première page et qu'il ne lâche plus. Combien de fois on nous a imposé des lectures de on n'en pouvait plus, même à la 30e page, on n'en pouvait plus. On trouvait ça indigeste. Jean-Paul Sartre, je ne sais pas si vous avez eu l'obligation de lire du Sartre.
Si, L'être et le néant. Je préfère le théâtre, moi, de Sartre. Les justes, ça c'est
l'être beaucoup. L'être et le néant, ouais, c'est surtout lui qui est aujourd'hui, vous voyez, à la lueur de l'histoire, Sartre... ça vieillit très mal.
Parce que le monde redevient camusien, Pierre, c'est pour ça.
Mais Waltari est camusien. Waltari est camusien avant Camus. C'est la désillusion. Waltari, c'est... Waltari, remarquez, je ne sais pas si vous avez remarqué, tous ses livres, ce sont... Le héros se trouve au milieu de la fin d'une ère et du début d'une nouvelle. Alors, par exemple, L'escolier de Dieu, c'est effectivement c'est la fin du papisme et c'est la naissance du protestantisme. L'étrusque, c'est la fin de la Grèce antique telle qu'on la connaît et c'est la naissance c'est l'arrivée progressive du christianisme qui est en train de pointer le bout de son nez. Jésus le Nazaréen, là c'est clair, c'est le monde romain qui disparaît et c'est l'ère chrétienne qui arrive. Et tous ces livres, y a un autre livre qu'on a de lui, ça se passe avec Soliman le Magnifique.
On en parlera peut-être par téléphone dans notre prochaine chronique.
Donnez-moi une raison de revenir à Montpellier. Moi, j'aime beaucoup Montpellier, c'est superbe.
On va se quitter sur toutes ces beaux titres.
On le fera en direct.
En tout cas, Pierre, je vous remercie d'être venu dans nos studios. Je vous remercie pour ce partenariat et tous ces beaux livres que vous offrez à nos auditeurs. Et puis, je mettrai tous les liens pour qu'on aille découvrir le site du Jardin des Livres.
D'accord. C'est très gentil à vous, en tout cas.
Merci. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic.
Merci à vous, Nathalie.
À bientôt.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.